Allô tout le monde, comment allez-vous? On est là, toujours le mardi, là. Le 24 du mois de mars, printemps est arrivé, ça fond. J'arrive d'aller prendre une marche, ça fait du bien. N'oubliez pas de vous époumoner, c'est encore permis, là, tu sais. On prend ça relax, vous êtes dans GFP en direct, Georges qui vous accompagne en direct du Studio B sur la rue Saint-Jean à Québec. Comment allez-vous ce soir? En ce début de semaine, avec une température printanière au moins, toujours bien ça, belle température printanière. Dans l'édition de GFP en direct, le meilleur succès radio de tous les temps, je vous accompagne jusqu'à 18h. Dans la radio indépendante numéro 1, web à Québec. Radiofiatlux.tk. Prenez une grande respiration, on se détend, on relaxe. Une grande, grande respiration. Une grande respiration. Pensez plus à rien. Détendez-vous, débouchez-vous une bière si nécessaire, allumez-vous un joint, c'est permis maintenant. Et détendez-vous, ben oui, vous écoutez GFP en direct sur radiofiatlux.tk. Respirons par le nez. Écoutez une des seules radios indépendantes de Québec, radiofiatlux.tk, 24 heures sur 24 en onde.
Broken train with nobody I know, but
Eh oui, vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, le retour à la maison. Je vais vous dire que le retour à la maison, il est tranquille pour tout le monde. Et c'est ça, on se plie aux consignes qui sont données. On va écouter une belle tune d'Elton John, OK? Hey, c'est bon ça. Un bon succès des années 76. Dans GFP en direct. C'est une belle tune d'Elton John, une des plus belles, moi je trouve, en tout cas. Il y en a fait plusieurs, là, remarquez bien. Avec Kiki D sur les ondes de Radio Fiat Lux, j'espère que ça va bien pour vous autres. Un beau soleil, une belle température. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Alors, on va prendre une petite marche. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Dans les derniers jours, des centaines d'étudiants des résidences de l'Université Laval ont reçu le mot d'ordre de quitter le plus rapidement possible. Chloé et Déborah, deux étudiants du campus, font partie de ceux qui vivent beaucoup de stress. Vous n'êtes pas tout seuls, les amis. Depuis samedi, venues d'outre-mer, elles n'ont ni famille ni amis pour les héberger dans la région. L'option de retourner à la maison n'en est pas une non plus, avec des compagnies aériennes qui diminuent le nombre de vols internationaux pour limiter la propagation du COVID-19. Elle ne considère même pas s'aventurer dans les aéroports. Air Canada a d'ailleurs suspendu la majorité de ses voyages à l'étranger et ne compte garder qu'un nombre limité de tracés actifs en provenance du Canada. Alors, on va vous souhaiter un bon courage. Si jamais vous nous écoutiez par hasard, ben on vous souhaite un bon courage pour passer à travers tout ça. C'est pas évident, je vous dirais. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux. .tk, la radio indépendante en direct du centre-ville de Québec. On va écouter un bon vieux souvenir. Bon vieux souvenir, ça va nous... The Village People, un groupe montréalais. Tout le monde dansait là-dessus à l'époque. Et on voyait ça à la télévision, ben ouais donc. Une tonne spécialement pour les militaires de la base Valcartier qui nous écoutent, tous les militaires qui ont un rôle à jouer, qui auront un grand rôle à jouer.
Sign up for the big band, arts in the grandstand.
Effectivement, nos militaires auront un grand rôle à jouer. Je pense qu'on doit se préparer tranquillement. On est sur un pied d'alerte. Donc, salutations à tous les gens de la base militaire de Valcartier qui nous écoutent. Et ceux qui sont à la Citadelle de Québec aussi qui nous écoutent. Qui écoutent Radio Fiatlux.tk, une radio indépendante à Québec. Salutations à vous autres. Comme météo, ce qu'on annonce, c'est un minimum de 9, moins 9 pour la nuit prochaine, avec un ciel variable, avec un beau soleil pour les deux prochains jours encore, donc c'est pas si pire que ça, avec des minima de moins 2, avec des maxima de 6 toute la semaine, donc des ciels variables. Pour vendredi, c'est un petit peu de neige, alors on a passé à travers l'hiver, finalement, les grands froids sont terminés, on arrive au mois d'avril, on arrive au printemps. Au Saguenay, il y a les chaînes de supermarchés Maxi et Provigo qui réserveront des plages horaires pour leurs clients de 70 ans et plus, ainsi que pour ceux à mobilité réduite qui doivent faire leur commission essentielle malgré les recommandations de la santé publique de rester à la maison. Il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils aillent chercher quelque chose à manger, évidemment. Alors à compter, on sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules aussi, que bon, soit que c'est des veuves ou des veufs. Donc, alors à compter du 24 mars, du lundi au vendredi, de 7h à 8h, les magasins Provigo participants, les magasins Maxi, seront exceptionnellement ouverts afin de répondre aux besoins de cette clientèle particulièrement vulnérable. Cette mesure s'applique à l'ensemble des magasins Maxi, mais on demande aux clients de communiquer avec leur magasin Provigo local afin de valider si cette mesure s'applique a précisé Joanne Héroux, directrice principale aux affaires corporatives et communautaires et communication des compagnies Lobla, dans un communiqué. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.tk dans l'émission GFP en direct, édition de ce mardi le 24 mars 2020. On a appris également que le journal Le Soleil cessait sa version papier. Donc, le journal Le Soleil va être disponible à l'avenir. Moi, j'étais abonné, là, donc c'est mon dernier journal Le Soleil que j'ai aujourd'hui. Moi, je m'étais abonné pour encourager un petit peu l'entraide communautaire. Donc c'est la dernière copie du Soleil que j'ai aujourd'hui. Donc, à partir de demain, il n'y aura plus de version papier du journal Le Soleil. Donc, on va s'abonner au Journal de Québec, ou je sais pas trop, whatever. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux, mais on dit que le Soleil va être distribué papier seulement le samedi. C'est vrai. J'ai oublié de vous dire que l'édition du journal Le Soleil sera offerte le samedi seulement, édition papier. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.tk, la radio expérimentale, en direct du centre-ville de Québec. tout le temps le fun de réécouter des vieux hits de même, des numéros 1 radio. Avec Casey and the Sunshine Band. Shake. Concernant le centre de détention de Québec, ben les autorités, ils veulent pas parler, ils veulent pas nous donner de nouvelles. On a tenté de communiquer avec eux autres et puis pas de réponse, évidemment. Il n'y a pas de service au numéro que vous avez composé. C'est ça, le ministère de la Sécurité publique, ça se passe comme ça, hein? C'est pas nouveau. Alors, concernant la fermeture des chantiers, pensez aux travailleurs d'urgence, disent les entrepreneurs. Alors, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Eux autres, ils ont des délais, ils ont des contrats. Alors, les associations patronales de construction, de la construction, vont se plier à la décision du gouvernement Legault de fermer les chantiers du Québec à compter de mardi soir, à compter de ce soir. Donc, ça, c'est à cause du coronavirus, évidemment. Les chantiers de construction devront fermer comme les autres entreprises du Québec, jugées non essentielles à compter de 23h59. Mardi soir, annoncé lundi midi, le premier ministre Legault, lors de sa traditionnelle conférence de presse quotidienne depuis le début de la pandémie. Alors, l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec dit avoir pris acte de la décision du gouvernement. Néanmoins, elle a tenu à rappeler l'importance de prévoir un mécanisme pour les interventions d'urgence sur les infrastructures publiques. Les entreprises membres de l'ACGR-GTQ s'occupe en effet de travaux sur les routes, les viaducs, les égouts, les aqueducs, des infrastructures qui s'avèrent essentielles. De même, l'Association de la construction du Québec, dont les membres œuvrent dans les secteurs industriels, commerciaux, institutionnels, a aussi demandé que certains travaux d'urgence soient permis afin d'assurer la sécurité publique. La sécurité du public, elle a dit attendre plus de détails à ce sujet de la part du gouvernement du Québec afin d'informer ses entreprises membres. Dans son cas, il peut s'agir de travaux dans les hôpitaux, par exemple, ou de rénovation pour empêcher qu'un bâtiment soit découvert et soumis aux intempéries, a-t-on illustré dans cette missive. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux .tk. On va prendre ça, vous savez, en se détendant, en relaxant. Un jour à la fois. Un jour à la fois.
Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin. Pour progresser, mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois, un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est je demande le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé un jour à la fois. Hier s'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Prêté la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé un jour à la fois. Hier s'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois.
Sur radio.fiatlux.tk.
Après ça, un peu j'ai envie d'aller voir, dis-moi ça,
radio. On va écouter après ça un bon vieux succès des années, milieu des années 70, avec Brother to Brother, un numéro 1, hit radio.
En Italie, .tk.
Numéro 1, Hit Radio, 1975.
People in the back. flamme sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre. Brisant les murs du son bouquet de laser, à force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier, à force de changer la couleur de ma peau. Portant les cris qui viennent du ghetto,
ma voix portant les cris qui viennent du ghetto.
À force d'être un dieu, Hells Angel sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine, j'ai oublié de sur des scènes violentes sous des lumières bizarres. À force d'oublier qu'il y a la société m'arrachant du sommeil pour me faire chanter. Les yeux d'une brune ou le corps d'une blonde, à force d'être enfin sans arrêt le coupable, le voleur, le pilleur, le violent admirable, j'ai oublié de vivre.
Un bon vieux souvenir de John Hallyday, toujours le fun de réécouter ça. La météo, ce qu'on annonce, c'est du beau temps pendant les trois prochains jours avec des maximums de 6 pour la journée. Vous êtes à l'antenne de RadioFiatLux.tk, vous êtes dans l'édition du mardi le 24 mars 2020. J'espère que ça va bien chez vous. Tout va bien, on est à la maison, on écoute de la bonne musique et moi ça me fait plaisir de vous accompagner et je vous salue. Je vous dis qu'il faut garder au cœur l'espérance, tous ensemble. On va finir par trouver des solutions. Il faut garder au cœur l'espérance. Au Saguenay, il y a les alumineries qui ne fermeront finalement pas leurs portes, mais devront réduire leurs activités au minimum. C'est bien sûr que c'est une industrie importante. Donc le gouvernement a intégrer la production de l'aluminium dans sa liste de services essentiels. Quelques heures après avoir annoncé l'arrêt des alumineries dans son point de presse quotidien, une entreprise qui fait de l'aluminium, des autos, des avions, ça va être fermé, a affirmé le premier ministre. Questionné sur le type d'entreprise qui doit fermer ses portes à partir de minuit mardi. Cette sortie avait pris par surprise toute l'industrie, alors il y a eu des petits changements évidemment, parce que la fermeture de
qui te tiennent la main. Mais n'oublie pas que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Garde bien de notre retour. Si quelqu'un veut t'accompagner jusqu'à la maison, dis-lui bien que non. Je n'ai plus qu'un désir. C'est ton péché, un jour de partir. Notre amour est si beau. Thank you.
Radio Fiat Lux, c'est les meilleurs succès radio de tous les temps dans l'émission GFP en direct du lundi au vendredi de 8h à 10h le matin et de 16h à 18h. Un rendez-vous que vous ne devez pas manquer. Avec les meilleurs succès radio de tous les temps, ben oui.
Aujourd'hui, je serai plus à l'aise seul dans mon lit. Je t'ai dit qu'une autre fille m'attendait, et même que je rirais quand tu partirais. Mais une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je croyais de garder mon sang-froid quand tu m'as dit adieu, ne m'en veux pas. J'ai crié va-t'en que le diable t'emporte, mais si tôt que je t'ai vu passer la porte, là une petite larme m'a trahi en me rendant ridicule à tes yeux. Je t'ai dit, mais on dit tant de choses. D'ailleurs, si plus tard un jour tu réfléchis, oui, tu sauras que je t'aimais plus de ma vie, puisqu'une petite larme m'a trahi. Oui, puisqu'une petite larme m'a trahi. Oh, une petite larme m'a trahi.
Vous savez, on a les radios épouvantails qui font peur aux gens, puis qui se passent le temps. Les radios poubelles qui font peur au monde, les radios paniques, c'est des radios paniques, là. On appelle ça radio panique. Mais ils vont durer combien de temps, eux autres? Est-ce qu'il va falloir que les gouvernements décident de les fermer? Alors, si ce sont des radios qui passent leur temps à toujours inquiéter, à faire peur à la plèbe, au peuple, à un moment donné, peut-être qu'ils ont les pouvoirs de sévir, vous savez, là, contre une radio qui déciderait de tout le temps faire peur au monde avec des épouvantails. Alors, il n'y a rien d'impossible. Puis, je pense que le docteur Akuda l'a même pas mentionné, mais quasiment. Alors, on va regarder ensemble la face cachée de l'histoire. Le shaker francophone, le chaos du monde, ne naît pas de l'âme des peuples, des races ou des religions, mais de l'insatiable appétit des puissants, les humbles veillent. Telle était la tonitruante affirmation proférée le 26 février dernier par le meilleur infectiologue au monde. Selon le classement Expert Cape, accueilli pourtant avec scepticisme et même sarcasme par la communauté scientifique. 3 semaines plus tard, la réalité est en train de lui donner raison, révélant au passage que nous aurions à peu près tous tout faux face au virus, ce qui en fait est une excellente nouvelle. Nous voici donc, dit-on, en état de guerre. Nouveauté, certes, pour nos générations qui, sauf pour les plus anciens, n'ont connu que des temps de paix. L'Europe est sous un quasi-couvre-feu avec une restriction massive des libertés individuelles et une casse économique et sociale qui promet d'être dramatique. Les discours des chefs d'État s'enflamment à qui mieux. Nous sommes attaqués. L'ennemi est invisible, sournois, redoutable. Mais nous en viendrons à bout. Ce genre de vocabulaire paraît d'un autre âge. La réalité est plus prosaïque. Nous subissons la contamination à large échelle par un virus qui est un pur produit de la rencontre entre la bêtise humaine, l'entassement dans des cages d'animaux sauvages de diverses espèces dans des marchés insalubres, et de l'inventivité du vivant. La bestiole a donc franchi la barrière interespèce et s'est propagée à partir de là entre humains. Ce n'est pas une guerre. Nous ne pouvons jamais vaincre ou éradiquer une créature. Nous prémunir contre ses dégâts, si, puis nous aurons à apprendre à vivre avec elle, ce qui réclame une autre intelligence que celle des slogans martiaux sanitaires. On parle de précaution luminaire. Je l'ai dit et je le répète, en ces temps de mobilisation collective, nous avons tous à respecter scrupuleusement les mesures qui sont imposées. Même si on doute de celles-ci et qu'on les trouve inadaptées, aucun d'entre nous ne peut donner le droit de suivre sa propre idée. Cette conformité que je n'ai cessé de prôner m'habite inconditionnellement. Par contre, cette obéissance civile ne doit surtout pas conduire à une interdiction de penser ou de parler. Nous vivons des temps hautement traumatiques, avec des dégâts sur la population qui seront considérables. Donner sens à ce que nous vivons, nous renseigner, oser poser des questions est non seulement un droit inaliénable, mais aussi une nécessité vitale. J'ai lu passablement de commentaires ironiques sur le nombre soudain de virologues et d'épidémiologie amateurs s'exprimant sur des réseaux sociaux. Ce que je peux comprendre, mais je pense à l'inverse, que plus les citoyennes et citoyens s'intéresseront à ce qui nous arrive, plus ils s'informeront ou même se documenteront mieux. Cela nous aidera à mettre en dialogue ce que nous vivons, ce qui est essentiel à la fois pour notre santé psychique, individuelle et notre résilience collective. On m'a parfois On m'a parfois objecté et j'avais une responsabilité en tant que scientifique que les analyses que je pouvais faire, toutes pertinentes qu'elles soient, risquaient d'être mal interprétées ou pousser les gens à faire n'importe quoi. Je le rappelle donc, nous avons tous à suivre sans discuter les instructions des autorités. Et abstenons-nous strictement de toute autodétermination, en particulier en ce qui concerne les substances que je mentionnerai plus loin. Utilisées hors suivi médical strict, elles peuvent en effet être dangereuses. Ceci posé, allons-y. D'où je parle? Je suis anthropologue de la santé et expert en santé publique. Mon métier consiste depuis plus de 30 ans à étudier les pratiques des soins et les dispositifs sanitaires. J'arrive à un âge où l'on sait, on perd folie, qu'on n'est pas le nombril du monde et, sauf exception, qu'on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. J'ai quelques références dans mon domaine, comme celle d'être, malgré l'embarrassante immodestie de ce propos, un des meilleurs connaisseurs actuels, un des meilleurs connaisseurs actuels des processus de salutogénèse et de rétablissement ainsi que des déterminants de la santé. Ce qui m'a valu d'être invité à enseigner dans une quinzaine de programmes universitaires et de hautes écoles en santé, faculté de médecine, de l'INIJ, de l'UNIL, etc., etc., Université de Montréal, Fribourg, Neuchâtel, etc. J'ai exercé ma profession hors des milieux académiques, préférant agir au sein des politiques de la santé ainsi que sur le terrain. J'ai créé différents dispositifs socio-sanitaires innovants, en particulier en santé mentale, dont certains font encore référence aujourd'hui. Je m'excuse pour ce petit étalage, c'est le prix à payer pour me prévaloir d'une modeste compétence quant à ce que je vais maintenant avancer. Banal ou pas banal. Depuis le début de l'émergence du coronavirus, je partage mon analyse qu'il s'agit d'une épidémie banale. Le terme peut choquer quand il y a des morts, et a fortiori dans la crise sanitaire et la dramaturgie collective hallucinée que nous vivons. Pourtant, les données sont là. Les affections respiratoires habituelles que nous vivons chaque année font bon an mal an plus de 2 600 000 morts à travers le monde. Avec le COVID-19, nous en sommes au quatrième mois, à 9 000 décès. Et avec le pays initialement le plus touché qui est parvenu à juguler l'épidémie, nous sommes très très loin d'avoir un effet statistiquement significatif au regard de la mortalité habituelle et en particulier de la surmortalité saisonnière. Je l'ai dit et je le répète, le même traitement politique ou journalistique appliqué à n'importe quel épisode de grippe saisonnière nous terrifierait tout autant que l'épidémie actuelle. Comme la mise en scène avec décompte en direct des victimes, de n'importe quel problème sanitaire d'envergure, qu'il s'agisse des maladies cardiovasculaires, des cancers ou aux effets de la pollution atmosphérique, nous ferait frissonner d'effroi tout autant et même infiniment plus. Nous savons aujourd'hui que le COVID-19 est bénin en l'absence de pathologies préexistantes. Les plus récentes données en provenance d'Italie confirment que 99% des personnes décédées souffraient d'une à trois pathologies chroniques, hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, etc., avec un âge moyen des victimes de 79,5 ans, médium à 80,5 et très peu de pertes en dessous de 65 ans. Les maladies chroniques seraient évitables à 80% si nous donnions les moyens de protéger la population plutôt que de sacrifier sa santé au profit d'intérêts industriels. Nous avons depuis des décennies accordé des facilités coupables à des industries hautement toxiques au détriment du bien commun et de la santé de la population pour un développement de ce constat à référer à l'article suivant. Il faut oser le dire, ce n'est pas le virus qui tue, il est bénin pour les personnes en bonne santé. Ce sont les pathologies chroniques qu'on a laissées développer depuis des décennies. Statistiques et probabilités en folie. Il y a un autre problème. Le taux en particulier de complications et de mortalité qu'on nous brandit sous le nez jour après jour ne veulent rien dire. En l'absence de dépistage systémique de la population, nous n'avons aucune donnée fiable à laquelle référer les données dont nous disposons nombre de cas déclarés et de décès. C'est un classique en épidémiologie. Si vous ne dépistez pas les morts, vous parviendrez à 100% de taux de mortalité. Si vous ne testez pas le cas critique, vous n'en aurez moins, mais encore beaucoup plus qu'en réalité. Si vous dépistez beaucoup, vous aurez beaucoup de cas alors que vous dépistez peu. Le nombre de cas sera faible. La cacophonie actuelle ne permet juste pas d'avoir la moindre idée de la progression réelle du virus et de sa diffusion. Les estimations les plus crédibles laissent penser que le nombre de personnes déclarées est très largement inférieur, dans un facteur allant selon les meilleures estimations jusqu'à 1 pour 47. Au nombre de personnes réellement infectées, dont à peu près la moitié ne se rendra même pas compte qu'elle a contracté le virus. Pour un redoutable tueur, il est plutôt sympa. Nous n'avons donc à ce stade aucune idée de l'ampleur réelle de la propagation du virus. La bonne nouvelle est que les données réelles, en particulier le taux de complications et de mortalité, ne peuvent être que largement inférieurs à ce qui est couramment avancé. La mortalité réelle, comme annoncé à un précédent article, doit en fait s'établir à plus de 0,3% et probablement moins, soit moins du dixième des premiers chiffres avancés par l'OMS. Les dernières statistiques en provenance de Chine évaluent à 800 000 le nombre de personnes infectées et donc très probablement immunisées pour 3 118 décès, soit effectivement un taux de mortalité de 3 pour 1000. Fin du monde ou pas, pareillement, les projections qui sont faites pour imaginer le nombre de morts possibles sont rien de moins que délirantes. Elles reposent sur un forçage artificiel et maximal de toutes les valeurs et coefficients. Elles sont faites par des gens qui travaillent dans des bureaux, devant des ordinateurs, et n'ont aucune idée ni de réalité de terrain, ni de l'infectiologie clinique, aboutissant à des fictions absurdes. On pourrait leur laisser le bénéfice de la créativité et de la science-fiction. Malheureusement, ces projections littéralement psychotiques font des dégâts massifs. Mon expérience en santé mentale me fait éviter strictement les expressions de toutes faites comme schizophrénie ou psychose, qui sont à peu près très toujours utilisées abusivement, d'une manière désobligeante pour les personnes concernées. Médicalement, la psychose se caractérise par des distorsions cognitives, perceptuelles et affectives entraînant une perte de contact avec la réalité. Ici, le terme est hélas pleinement indiqué. J'en appelle à mes collègues de la faculté de médecine et autres instituts universitaires pour qu'ils arrêtent de produire et de colporter des modélisations fausses et anxiogènes. Ces experts se protègent en reconnaissant par précaution de langage et de caractère outrancier de leur formalisation. Les journalistes le mentionnent scrupuleusement, c'est à leur crédit. On n'en construit pas moins diligemment un sentiment de fin du monde qui non seulement n'a absolument pas lieu d'être, mais de surcroît est lui-même profondément nocif. On peut certes donner crédit à nos dirigeants d'envisager le pire, du pire et du pire, sur la base de ces élucubrations, pour ne surtout pas prendre le moindre risque qu'il se produise. En attendant, on construit une hallucination collective sur la base de chiffres qui ne veulent rien dire. La réalité, à nouveau, est que cette épidémie est largement moins problématique et dangereuse que ce qui est affirmé. Le visionnage de la première vidéo référencée en fin d'article donnera au lecteur ou lectrice les éléments nécessaires pour comprendre le bien fondé de cette affirmation. Je vous dirai à la fin ce qu'il y en est. Oui, mais tous ces morts et ces services engorgés. On va prendre une petite gorgée d'eau, ça ne vous dérange pas? C'est l'existence de ces cas graves estimés de manière absurde à 15% des cas, probablement en réalité 10 fois moins, qui justifie que l'on s'en remettra pas simplement à l'immunité de groupe. On nomme ainsi ce processus par lequel chaque personne qui contracte le virus n'en meurt pas, s'immunise. La multiplication des immunisés conduisant à un effet collectif de protection immunitaire. En l'absence, jusqu'à il y a peu, de traitements pour protéger ou guérir les personnes à risque, le choix de laisser l'immunité se construire en laissant circuler le virus est apparu comme étant trop dangereux. Le risque pour les personnes vulnérables est tel qu'il s'avérerait éthiquement indéfendable de prendre cette direction du fait de la gravité des conséquences possibles. C'est une difficulté de la santé publique. La médecine, comme le journalisme, travaille dans le cas particulier. En médecine, c'est pour cela que, par exemple, il n'y a pas de remède miracle. Chaque personne sera susceptible de réagir différemment à un traitement. En journalisme, on cherche à illustrer une thématique avec des cas particuliers, en montrant donc des images et paroles souvent choquantes. En santé publique, on n'agit pas à ce niveau narratif, singulier. On collecte des données pour voir le contour exact d'une problématique. Ainsi, en Italie, seuls 7 des 2500 premiers décès concernaient des personnes âgées de moins de 50 ans. Ces cas existent, mais ils sont heureusement marginaux. Un possible motif d'inquiétude, en revanche, est cette affirmation qu'il y aurait des personnes jeunes en quantité non négligeable atteintes de pneumonie et placées sous assistance respiratoire. Elles semblent heureusement survivre, mais c'est bien le nombre de lits en soins intensifs qui est dès lors à risque de poser problème à l'encombrement des services de réanimation qui se poursuivaient. C'est dans ce paradoxe expliqué entre la très grande innocuité du virus pour l'immense majorité des gens et de sa dangerosité extrême, dans certains cas, que nous nous sommes trouvés coincés. Nous avons alors adopté des mesures absolument contraires aux bonnes pratiques, renoncé à dépister des personnes possiblement malades et confiné la population dans son ensemble pour enrayer la diffusion du virus. Mesures, à vrai dire, moyenâgeuses et problématiques puisqu'elles ne ralentissent l'épidémie qu'au risque de phénomènes de rebond potentiellement encore pires et qu'elles enferment tout le monde alors qu'une faible minorité seulement est concernée. Toutes les recommandations en santé publique sont à l'inverse, de dépister le plus de cas possible et de confiner uniquement les cas positifs le temps qu'ils soient plus contagieux. Le confinement général constitue un pauvre pis-aller face à l'épidémie dès lors qu'on manque de tout, ce qui permettrait de lutter efficacement contre elle. Pourquoi en est-on arrivé là? Simplement parce que nous avons défailli mettre d'emblée en place les bonnes réponses. Le manque de tests et les mesures de dépistage en particulier emblématiques de ce naufrage, alors que la Corée, Hong Kong et la Chine en faisait priorité absolue, nous avons été d'une passivité invraisemblable à organiser la mise en à disposition de quelque chose de techniquement simple. Les pays mentionnés ont mis à profit l'intelligence artificielle, notamment pour identifier les chaînes de transmission possibles pour chaque cas positif. Avec les smartphones, on peut par exemple faire l'inventaire des déplacements et donc des contacts avec des personnes infectées ont eu avec d'autres personnes dans les 48 heures précédant l'apparition des symptômes. Enfin, nous avons réduit de manière importante la capacité de nos hôpitaux au cours de la décennie écoulée et nous retrouvons en manque de lits, de soins intensifs et de matériel de réanimation. Les statistiques montrent que les pays les plus touchés sont ceux qui ont réduit massivement les capacités des services de soins intensifs. Rien de tout ceci n'a été pensé alors que le risque de pandémie est un risque sanitaire majeur. La vérité, c'est que nous avons été complètement dépassés. C'est évidemment plus facile de jouer sur les métaphores guerrières que de reconnaître notre tragique impréparation. On parle de fin de partie. Le premier expert mondial en matière de maladies transmissibles s'appelle Didier Raoul. Il est français, ressemble au choix à un Gaulois sorti d'Astérix ou un ZZ Top qui aurait posé sa guitare au bord de la roue. Il dirige l'Institut hospitalier universitaire Méditerranée Infection à Marseille avec plus de 800 collaboratrices et collaborateurs. Cet institut détient la plus terrifiante collection de bactéries et de virus tueurs qui soit et constitue un des meilleurs centres de compétences en infectiologie et microbiologie au monde. Le professeur Raoul est par ailleurs classé parmi les 10 premiers chercheurs français par la revue Nature, tant pour le nombre de ses publications, plus de 2000, que pour le nombre de citations par d'autres chercheurs. Il a suivi depuis le début du millénaire les différentes épidémies virales qui ont frappé les esprits et noué des contacts scientifiques étroits avec ses meilleurs collègues chinois. Parmi ses hauts faits, il a découvert des traitements notamment avec la chloroquine qui figure aujourd'hui dans tous les manuels d'infectiologie au monde. Le 28 février, il publiait donc une vidéo retentissante sur un canal en ligne comprenant le mot « tube » pour affirmer « coronavirus, fin de partie ». La raison de son enthousiasme? La publication d'un essai clinique chinois sur la prescription de chloroquine montrant une suppression du portage viral en quelques jours sur des patients infectés au SARS-CoV-2. Des études avaient déjà montré l'efficacité de cette molécule contre le virus en laboratoire in vitro. L'étude chinoise confirmait cette efficacité sur un groupe de patients atteints in vitro. Suite à cette étude, la prescription de chloroquine fut incorporée aux recommandations de traitement du corona en Chine. En Corée, les deux pays qui sont les mieux parvenus à juguler l'épidémie. La chloroquine est une molécule mise sur le marché en 1949, largement utilisée comme antipaludique. Tous les voyageurs des pays tropicaux se souviendront de comprimés de Nivaquine, un de ces noms commerciaux qui leur étaient prescrits à titre préventif contre la malaria. Ce remède a ensuite été placé par d'autres pour certaines zones géographiques restant en usage pour certaines destinations. L'hydroxychloroquine, non commerciale Plaquenil, a quant à elle été préparée en 1955 et présente une hydroxygation sur un des deux groupes éthyles de la chaîne latérale. So what? Pourquoi vous parlez de cela? Eh bien, parce que le docteur Raoul et ses équipes sont les meilleurs spécialistes actuels au monde de l'utilisation de la chloroquine. Il avait notamment eu l'idée géniale de l'essayer contre des bactéries intracellulaires qui pénètrent les cellules comme les virus, en particulier les Rickettsia. L'IU de Marcel dispose donc d'une expérience clinique et pharmacologique sans équivalent quant à l'usage de cette molécule. La chloroquine a également démontré une puissante efficacité thérapeutique contre la plupart des coronavirus, dont le redouté SRAS. De sinistre mémoire, Raoul trouva donc dans l'essai clinique chinois la confirmation que la chloroquine est aussi indiquée contre le COVID-19. Il fut toutefois accueilli comme un cheveu sur la soupe, ses confrères dénigrant d'emblée sa proposition. Les journalistes du Monde allèrent même jusqu'à qualifier sa communication de fake news, accusant reprise sur le site du ministère de la Santé, pendant quelques heures avant d'être retiré. On va prendre une autre gorgée d'eau, mais je trouve ça intéressant, on étudie ensemble. Les résultats de... Le docteur Raoul obtint pourtant dans la foulée de l'autorisation de conduire un essai clinique sur 24 patients dans son service qui fut appelé à partir du comité pluridisciplinaire de 11 experts formés en mars par l'exécutif français afin d'éclairer la décision publique dans la gestion de la situation sanitaire liée au coronavirus. Les résultats de l'essai clinique étaient attendus avec impatience en premier chef par votre serviteur. Nous savons la prudence requise face à des substances prometteuses et l'importance de ne plus rien avancer avant que la recherche confirme ou non une hypothèse. La science n'est ni divination ni magie. Elle est observation, test, puis le cas échéant, validation. Les résultats de son étude clinique sont sortis hier confirmant l'obtention d'effets thérapeutiques spectaculaires. La méthodologie est robuste puisque l'IU de Marseille a pu comparer la négativation du partage viral chez les patients qui ont suivi le protocole avec des patients d'Avignon et de Nice qui n'ont pas reçu de traitement. Ceux qui n'ont pas reçu le Plaquenti, médicament à base d'hydroxychloroquine, sont encore porteurs à 90% du virus au bout de 6 jours, tandis que s'ils sont 25% à être positifs, pour ceux qui ont reçu le traitement, explique le professeur Raoul. Mais cela ne s'arrête pas là. L'IU Méditerranée, infection, conseille, comme d'autres, depuis longtemps de donner cocomitamant, un antibiotique dans les infections virales respiratoires parce qu'elle complique surtout, elle se complique surtout de pneumopathie. Donc, les gens qui présentaient des signes cliniques qui pouvaient évoluer vers une complication bactérienne de pneumopathie, on leur a donné de l'azithromycine. Elle a été démontrée que ça diminue le risque chez les gens qui ont des infections virales. L'autre raison, c'est que l'azithromycine a montré en laboratoire qu'elle est efficace contre grand nombre de virus, bien que ce soit un antibiotique. Donc, quitte à choisir un antibiotique, on préférait prendre un antibiotique efficace contre les virus. Et quand on compare le pourcentage de positifs et de l'association de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, on a une diminution absolument spectaculaire du nombre de positifs, ajoute-t-il. On parle de portage viral. Une étude publiée dans la revue Lancet du 11 mars avait entre-temps révélé une donnée nouvelle mais essentielle. Le temps de portage viral duré entre la fin et le début de l'infection et donc de contagiosité possible s'avère supérieur à ce que l'on croyait, avec une durée moyenne de 20 jours, avec l'association hydroxychloroquine, mycine, cette durée est réduite à 4 à 6 jours. La réduction drastique du temps de portage viral donne non seulement l'espoir de traiter les cas critiques, mais aussi de réduire le temps nécessaire à une personne infectée pour ne plus être contagieuse, et donc présente des perspectives énormes pour prévenir la propagation du virus. Cette nouvelle est bien sûr la meilleure nouvelle que l'on pouvait attendre. Les autorités et les scientifiques l'ont donc accueilli avec joie, penserez-vous? Et bien que nenni, les réactions qui se sont fait entendre disputaient dans un premier temps la bêtise à la méchanceté. Certes, ni les études chinoises, ni l'essai clinique marseillais n'en valent leur preuve, évidence. Et selon les critères de la recherche scientifique, une réplication des résultats par d'autres équipes est requise sans même parler d'une étude randomisée en double aveugle. Le top of the pop des méthodologies de recherche. Mais diable, nous sommes dans une situation d'urgence. La chloroquine est un des médicaments les mieux connus et les mieux maîtrisés, en particulier par l'étude de Marseille. On peut donc tabler une très solide expérience relative au sujet de sa prescription. Se réfugier derrière un intégrisme procédural est éthiquement indéfendable dès lors qu'on parle d'un médicament qu'on connaît par cœur, qui a déjà démontré son efficacité sur d'autres coronavirus, confirmé sur celui-ci par 2 essais cliniques et alors que des vies sont en jeu jour après jour. Raoul a relevé avec ironie qu'il n'était pas impossible que les découvertes d'une nouvelle utilité thérapeutique pour un médicament tombé de longue date dans le domaine public soient dorénavant pour tous ceux qui espèrent un prix Nobel grâce à la découverte fracassante de nouvelles molécules ou d'un vaccin. Sans oublier la perspective des dizaines de milliards de dollars de revenus à prendre là où la chloroquine ne coûte littéralement rien. On parle de célébration des soignants. Depuis quelques jours, la population confinée s'exprime chaque jour par jour, pour rendre hommage aux soignants et les soutenir dans les circonstances éprouvantes qu'ils vivent. Il s'agit d'une belle expression de solidarité, évidemment méritée par des professionnels, les remarquables d'abnégation et d'engagement au fond de cette lourde souffrance et de ce nouveau danger. Dans les cercles des sommités, les choses sont hélas en général moins reluisantes. Les recherches, la recherche et l'autorité médicale sont aussi souvent faites de mesquinerie, de manipulation, de malhonnêteté ou d'abus en tout genre, ainsi que de pitoyables mais violents combats d'égo. Sur BFM TV, le docteur Alain Ducardonnet cassait aussitôt du sucre sur le dos de Raoul en rappelant qu'une conclusion scientifique se publiait dans des revues scientifiques et non pas par vidéo. Ceci alors, dans sa communication, le docteur Raoul, le chercheur français, qui, rappelons-le, a le plus publié dans des revues scientifiques dans son domaine, venait évidemment de préciser que l'article décrivait son essai clinique avait été envoyé pour publication à une revue à comité de lecture. Cette anecdote montrant le niveau comme les suivantes. Le 1er mars, bien après la publication du premier essai clinique chinois, le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, disait aussi au micro d'Europe 1 « La chloroquine marche très bien dans une éprouvette, mais n'a jamais marché chez un être vivant. » Ce qui était parfaitement faux. Dans les retours de la presse nationale, l'insistante est mise lourdement sur le risque de surdosage de la chloroquine, effectivement toxique au-delà de 2 GR pour, en l'absence de comorbidité somatique. Les Chinois ont privilégié des doses de 2X500mg pendant leur essai. Raoul et son équipe, trouvant ce dosage excessif, préféraient opter pour 600mg par jour. L'objection est donc d'une consternante vacuité. Rappelons que nulle équipe clinique ne connaît mieux cette molécule que celle de Méditerranée Infection. Cela reviendrait à dire à une équipe de neurologues au sujet du Defalgan, ou là, attention, il peut être toxique s'il est mal utilisé, donc ce n'est vraiment pas une bonne idée d'envisager de traiter les maux de tête avec ce médicament. On invoqua, si vous lisez la presse, les risques liés à une utilisation prolongée où le traitement proposé dure en moyenne 6 jours. Liu dispose de surcroît de l'expérience de prescription exceptionnelle tout au long cours jusqu'à 2 ans dans le cadre du traitement de certaines bactéries intercellulaires. On a beau savoir qu'il est bon d'être charitable avec son prochain, des fois la bêtise combinée avec la malhonnêteté rend la chose ardue. D'autres insistèrent et insistent encore sur le fait qu'on peut tirer de conclusions définitives sur la base d'essais cliniques, ce qui est tout à fait juste dans l'absolu, mais s'applique mal au cas présent. Étant donné la parfaite connaissance de cette molécule, situation absurde résumée ainsi par Raoul. Il y a une urgence sanitaire et on sait guérir la maladie avec un médicament que l'on connaît parfaitement. Il faut savoir où on place les priorités face à la réalité de l'épidémie. Il préconise d'arrêter de s'affoler et de détecter les maladies sans attendre que leur cas s'aggrave pour mieux les traiter. Le problème va plus loin. La solitude de la compétence extrême. Raoul explique comment Emmanuel Macron est venu chercher, après sa première annonce publique le 28 février, à l'étrange expérience qui a été depuis la sienne dans le cercle d'experts qui conseille le martial président. À la question posée par un journaliste de Marianne, y êtes-vous entendu? Il répond, j'y dis ce que je pense, mais ce n'est pas traduit en actes. On appelle ça des conseils scientifiques, mais ils sont politiques. J'y suis comme un extraterrestre. C'est sa certitude évidente, inconfortable pour les autorités avec les mesures prises actuellement contre l'épidémie. On marche sur la tête. Nos pays ont renoncé, contrairement aux Chinois et aux Coréens, au dépistage systématique au profit d'un confinement dont le docteur Raoul souligne qu'il n'a jamais été une réponse efficace contre les épidémies. C'est un réflexe ancestral de claustration, comme à l'époque du choléra et du hussard sur le toit d'Iono. Confiner chez eux des gens qui ne sont pas porteurs de virus est infectiologiquement absurde. Le seul effet d'une telle mesure est de détruire l'économie et la vie sociale, un peu comme bombardier une ville pour en éloigner les moustiques porteurs de malaria. La seule voie qui fasse sens, selon lui, est confiner les porteurs du virus uniquement et de les traiter en cas de besoin, soit pour éviter de terribles complications comme celles que l'on voit, soit pour réduire le temps pendant lequel elles sont contagieuses. En Suisse comme en France et partout en Occident, la décision prise est de confiner les gens chez eux, malades ou non. Quand ils sont malades, on attend qu'ils aillent mieux et du fait de la durée du portage viral, on les laisse ressortir alors qu'ils sont en fait encore contagieux. Les personnes à risque, elles, développent parfois des complications, en particulier une détresse respiratoire aiguë, qui les conduit aux urgences. Elles viennent alors engorger les services de soins intensifs et pour certains malades, y mourir alors qu'affirme Raoul, on aurait pu les traiter avant. Confiner l'ensemble de la population sans dépister et sans traiter, c'est digne du traitement des épidémies des siècles passés. La seule stratégie qui fasse sens est de dépister massivement, puis confiner les positifs et les traiter tout comme les cas à risque, puisque c'est possible. Comme on le voit en Chine et en Corée, qui ont intégré l'association dépistage massif avec des prescriptions de chloroquine dans leurs directives de traitement. Ni Hong Kong, ni la Corée, deux territoires qui ont connu les plus faibles taux de mortalité face au COVID-19, n'ont imposé de confinement aux personnes saines. Elles se sont simplement organisées différemment. On parle de la décadence de l'Occident. On va prendre une autre gorgée. C'est intéressant, on étudie ça tranquillement, pas vite. C'est le fun, on regarde les deux côtés de la médaille. On parle de la décadence de l'Occident. Elle est hélas criante et révélée d'ici dans toute sa crudité. Nous disposons d'une médecine de qualité, mais d'une santé publique moyenâgeuse. Le leadership technologique et scientifique est passé à l'Extrême-Orient depuis longtemps déjà, et notre nombrilisme intellectuel nous fait souvent nous raccrocher aux lanternes du passé plutôt qu'à la science d'aujourd'hui. Des tests systématiques seraient faciles à instaurer pour autant qu'on en fasse une priorité sanitaire et que l'on s'organise ce que les Coréens ont fait en un temps record. En Europe, nous avons été complètement dépassés comme si nous vivions dans un autre temps. Les autorités comprennent maintenant qu'il s'agit d'une priorité absolue suivant en cela les recommandations insistantes de l'OMS. Produire les tests présente aucune difficulté. C'est de la PCR, réaction en chaîne par polymérase, banale et tout le monde peut faire. La question, c'est l'organisation par la technique. Ce n'est pas la capacité de diagnostic, nous l'avons, comme commente Raoul. C'est comme un choix stratégique qui n'est pas celui de la plupart des pays technologiques, en particulier les Coréens, qui font partie avec les Chinois de ceux qui ont maîtrisé l'épidémie en faisant dépistage et traitement. On est capable dans ce pays, comme n'importe où, de faire des milliers de tests et de tester tout le monde. Certes, ces régimes politiques plus disciplinés ou même autoritaires ont un avantage de conformité sociale, mais la question n'est pas là. Le problème, c'est bien nous. La France s'enfonce dans des polémiques sans fin avant même de qui que ce soit ait ouvert la bouche, pendant que son jupitérien président s'envole dans des péroraisons antiques sur l'art de guerre en se contemplant dans un miroir. Dans notre pays, le Conseil fédéral a réagi sans agitation ni malice, mais en donnant comme toujours l'impression qu'on le révélait déplaisamment de sa sieste. Bref, pour notre pays qui se targue de sa qualité d'innovation et de biotech, c'est encore un peu la fête du village. Heureusement, on peut espérer que le vent change vite et bien. Le ministère de la Santé français vient de mandater le CHU de Lille pour un essai visant à répliquer les résultats obtenus à Marseille. Rappelons que des essais probants ont déjà été menés en Chine, en Corée, mais en France, on tient en général ce qui vient de l'étranger est indigne du génie français. Quelques services hospitaliers et quels et leurs médecins chefs sont capables d'envisager qu'ils se sont trompés. C'est par exemple le cas du docteur Alexandre Blibreux et de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui a tweeté récemment avec humour des choses. L'intérêt pour la chloroquine est désormais mondial avec des équipes travaillant aux quatre coins du monde. Si l'efficacité aujourd'hui très probable du médicament se confirme, ce sera un majeur game changer. Une fois les personnes à risque de complications diligemment traitées, les innombrables infections bénignes dues au SARS-CoV-2, que nous serons très nombreux à vivre, pourvoiront l'immunité de masse qui ravalera cette pandémie au rang de sale mésaventure. Le dépistage de masse est désormais enfin une priorité sanitaire. Le temps d'organiser la capacité d'analyse des laboratoires, nous y aurons tous progressivement droit. Le laboratoire Sanofi vient par ailleurs de progresser au gouvernement français de produire gratuitement 1 million de doses de chloroquine. Et si la molécule ne tenait pas ses promesses, c'est bien sûr une hypothèse possible, mais si elle est à ce stade probable, d'autres médicaments sont actuellement en voie d'examen, notamment des antiviraux connus comme la favipiravir, testés en Chine également avec des premiers résultats cliniques encourageants, selon une nouvelle tombée de ce matin. Ce qui est frappant autour de la chloroquine, c'est la religiosité du débat que cette option provoque, un classique toutefois en science. Raoul est décrit comme une espèce de gourou malgré ses états de service scientifiques remarquables, et on décrit la croyance en ce médicament comme étant l'attente d'un remède miracle qui égarerait les gens en faisant miroiter des experts, des espoirs possibles plutôt. Heureusement, il reste une démarche qui s'appelle science et qui vise justement à passer du registre des opinions, chacun voit le monde à sa façon, à sa manière, à savoir ce que l'on éprouve, ce que l'on a éprouvé, vérifié et validé indépendamment des opinions personnelles. Si les résultats obtenus à Marseille, en Chine, se démentent, alors l'hallucination collective dans laquelle nous sommes engoncés se poursuivra avec de très lourdes conséquences de notre société, nos modes de vie, notre santé psychique et sociale. Si en revanche il se confirme, on aura fait un pas de géant pour sortir de cette lourde gonfle et ce sera alors bel et bien fin de partie pour le COVID et nous aurons appris bien des choses au passage. C'est un texte qui est assez long. On pourra le poursuivre demain. On poursuivra demain. Ça vient de la Suisse. Alors, hommage aux autorités. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiatlux.tk, la radio indépendante en direct du centre-ville de Québec.
Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier s'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. prêter. La vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois.